Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue dans cette émission mensuelle, émission diffusée sur Radio Lapourdie et Radio Présence, où nous abordons avec vous, Monseigneur Ayé, des sujets d'actualité qui concernent l'Église et notre diocèse. On va commencer avec l'Église universelle et donc un retour sur le synode qui a eu lieu du 4 au 29 octobre. Alors quand on dit synode, en fait c'est la première session générale des évêques, il y en aura une deuxième l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir en quelques mots de cette première session qui a eu lieu donc à Rome ?
Alors, on n'en sait pas forcément beaucoup, parce que comme vous savez, le synode s'est déroulé à huis clos, de manière à éviter sans doute la pression des médias qui, quelquefois, pèse sur les grandes assemblées de l'Église. Nous en savons quand même quelque chose à travers une lettre qui a été adressée au peuple de Dieu, à la fin de cette première assemblée générale du synode, ordinaire des évêques, même s'il y a eu plus que des évêques qui ont participé. Et nous savons aussi par la synthèse qui a été publiée. Mais je me rapporterai surtout au témoignage qui nous a été donné au cours de la dernière assemblée plénière par les quatre évêques qui nous ont présenté, plus les personnes qui avaient été nommées par le pape pour augmenter notre délégation française. Une consacrée du diocèse de Rodez et le cardinal Jean-Marc Aveline. Il ressort du témoignage qu'ils nous ont fait un certain nombre d'éléments que je vais rapidement rapporter. D'abord que la forme du synode, en circuli minores, comme on dit habituellement dans le langage officiel, les cercles mineurs, ont remplacé totalement la forme de l'Assemblée générale en hémicycle, si je puis dire. Même s'il y a eu des moments de prise de parole générale, grâce à des moyens technologiques tout à fait performants, hein, un ordinateur sur chaque salle, sur chaque table. Les tables où les évêques étaient plutôt mêlés, par groupe de langues sans doute, mais bon, comme il y a des gens qui parlent l'italien, l'anglais, on pouvait aussi être avec d'autres évêques et d'autres personnes d'autres continents ou d'autres latitudes. Je crois que ça a été très apprécié, parce que, comme le voulait le Saint-Père, c'est une manière de faire, hein, qui n'est pas incompatible avec d'autres, mais il fallait partir de l'expérience. Donc c'était ce que l'on appelait le mode de la conversation dans l'esprit. Après avoir prié ensemble, je crois qu'il y a eu des temps de silence, des temps de prière assez conséquents, eh bien, sur le thème donné par l'instrumentum laboris, c'est-à-dire le document de travail qui a été la base de leurs échanges, eh bien, il s'agissait de donner l'expérience que l'on avait de cette réalité là où l'on était. Et ça a été très frappant. Monsieur Rouget en particulier a dit combien il avait été frappé par l'importance du témoignage des églises autres que celles de l'Europe, parce que nous sommes, nous, très européocentrés, souvent, avec des problématiques qui sont celles de notre Occident, pas mal phagocytés aussi par le consumérisme, etc., que nous connaissons plus que d'autres. Et c'est vrai que cette parole des évêques d'Afrique, cette parole des évêques d'Asie, et des évêques de l'Est aussi, de l'Europe, a été très déterminante dans l'ouverture à l'Église universelle de ce synode. C'était pour ça une très belle expérience. La deuxième chose qui a été rapportée par tous les évêques qui ont témoigné, c'est que ce qui était au centre des débats, c'est pas ce que les médias nous avaient dit, pas peut-être aussi ce qui était pointé de manière un peu obsessionnelle par l'instrumentum laboris, mais c'était la nature missionnaire de l'Église, à la fois fondée dans la constitution Lumen Gentium, sur le mystère de l'Église, et cette grande élan missionnaire qui est quand même l'objectif premier du Concile, tel que le magistère aussi de l'Église, après le Concile, nous l'a sans cesse rappelé. Et enfin, l'analyse du cardinal Aveline, comme toujours avec beaucoup de finesse, est toujours très, très attendue, qui nous a dit « l'expérience est très bien », très bien de partir l'expérience, mais il a manqué vraiment, alors c'est peut-être parce que ça n'est que la première session,
la
réflexion théologique. Voilà. Et il a dit cette formule en disant « l'expérience sans la théologie qui permet de prendre du recul et d'atteindre à l'universalité de la révélation qui vient de Dieu et pas de nous-mêmes, eh bien, peut sombrer dans l'idéologie. Et donc, il appelait d'une certaine manière de ses voeux à ce qu'il y ait aussi une infusion théologique qui complète cette première expérience.
La nouveauté, quand même, c'est la place des laïcs dans la discussion.
Alors, c'est une nouveauté d'une certaine manière, puisqu'il y avait déjà eu la place des laïcs à travers la consultation du peuple de Dieu, qui a précédé. Il y a eu, en effet, des consacrés, des prêtres et des laïcs qui ont été introduits dans ces discussions de ce synode des évêques, sans doute aussi pour aider les évêques dans leurs propres réflexions et être davantage encore à l'écoute du peuple de Dieu.
Donc ça, c'est vrai. Est-ce qu'on n'est pas passé du synode des évêques au synode de l'Église ?
Alors moi, je ne pense pas. Je pense que c'est toujours le synode des évêques, même si on a introduit dans leurs échanges des voix de membres du peuple de Dieu plus diversifiées.
Alors, vous avez publié récemment un livre, Monseigneur Hayet, qui s'intitule « Le temps des saints, ne soyons pas des chiens muets » aux éditions Artege. Alors, dans ce livre, vous expliquez justement que certains espèrent, avec le synode, réformer les structures de l'Église. Vous expliquez que ce n'est pas ça l'essentiel. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, j'essaie de montrer que ce n'est pas d'abord la réforme des structures de l'Église, comme si l'Église était une réalité avant tout humaine et qui forcément devait s'adapter aux évolutions des temps et de la société dans laquelle l'Église est appelée à exercer sa mission. J'insiste justement sur le fait que l'Église est d'abord un mystère, comme le Concile Vatican II nous l'a bien montré dans la Constitution sur l'Église Lumen Gentium, qui reste le fondement même de l'enseignement de l'Église depuis le Concile. Et elle est d'abord une volonté de Dieu qui s'accomplit à travers le Christ, qui en est le vrai fondateur. Le Christ qui est le même hier, aujourd'hui et toujours, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est toujours vivant et qui n'est pas cantonné évidemment à l'époque dans laquelle s'est opéré, il y a 2000 ans, le mystère de l'incarnation. Et donc, l'Église n'est pas d'abord un matériau humain que nous pourrions réformer à notre guise, selon les préoccupations qui sont celles de notre temps. Et j'insiste pour dire que la vraie réforme de l'Église, c'est la sainteté, d'où le titre « Le temps des saints », en rappelant cette parole de Bernanos qui dit « Les vrais réformateurs de l'Église, ce sont les saints ». Et j'insiste justement sur le fait que le Concile a mis au cœur de son ecclésiologie, c'est le chapitre 5 de Lumen Gentium, notre vocation universelle à la sainteté, rappelée de manière très insistante par le pape Jean-Paul II dans sa lettre au début du nouveau millénaire, en disant que la sainteté est la première programmation pastorale de l'Église entrant dans le troisième millénaire, et insistant aussi sur cette magnifique exhortation apostolique du pape François, « Gaudete et exultate », sur l'appel à la sainteté, où il semble nous dire, le Seigneur nous dit en tout cas à travers lui, qui pourtant a été élu pour une certaine réforme structurelle de l'Église, à commencer par la curie romaine, et bien que la première réforme qui importe, c'est notre conversion personnelle. Je rapporte cette parole de Mère Teresa, à un prêtre un peu contestataire des années 70 qui vient déballer son sac et qui lui dit « Vous ne croyez pas à ma mère qui a beaucoup de choses à réformer dans l'Église ?» Et elle lui répond « Oui, vous et moi. »
Dans votre livre, vous regrettez la perte du sens du péché et également vous appelez à revenir à la radicalité de la foi. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Mais la radicalité de la foi, donc c'est vrai que ce mot radicalité est aujourd'hui un peu pipé, quand on connaît la radicalisation des musulmans parfois, qui devient l'islamisme. Non, je parle de la racine, puisque radical ça vient du mot radix, qui est le mot qui veut dire racine. Et donc c'est une manière de dire il faut à nouveau vraiment enraciner notre foi dans la parole de Dieu, dans la vie sacramentelle et dans la vie intérieure, dont l'action, l'apostolat, ne peut être que le débordement.
Vous parlez aussi de la fin de l'Église régionale. Ça peut paraître un peu paradoxal, puisque chaque Église particulière est régionale, finalement. Vous avez l'air d'espérer de vos voeux une Église supranationale, mais est-ce qu'on n'est pas quand même une religion de l'incarnation, de l'inculturation ?
Alors justement, quand je dis Église supranationale, je ne dis pas Église internationale, qui ne balaye pas les circonstances nationale et régionale. Quand je dis la fin de l'Église régionale, c'est un peu forcé pour dire que quelquefois l'Église régionale s'oppose à l'Église universelle. C'est ça que je veux dire. Et bien sûr qu'il faut tenir compte de toutes les traditions, même si on est aussi malheureusement engagé dans un processus culturel qui fait que notre culture est de plus en plus mondialiste. Et que on a l'impression aujourd'hui qu'on soit au Pays Basque, qu'on soit en Bretagne ou dans la Rhénanie.
On est en train d'en revenir de la mondialisation.
Sans doute. Ben oui, mais on est quand même, à travers les réseaux sociaux, on est quand même abreuvé par des idéologies qui ne sont plus celles de nos traditions locales. Hein, c'est ça que je veux dire. Non, mais surtout là, j'ai surtout voulu dire que si on appartient maintenant, hélas, je ne dis pas que c'est bien, un village mondial dont il faut tenir compte. Je dis surtout qu'il ne faut pas que l'Église régionale, qui a été la tendance parfois il y a quelques décennies, nous fasse oublier que nous appartenons d'abord à une Église qui est universelle, qui n'est pas internationale, c'est-à-dire qui gommerait toutes les particularités régionales ou nationales, mais qui est supranationale, qui est au-dessus des nations, même si elle s'incarne aussi dans les cultures et les traditions locales, qu'il ne s'agit pas d'oublier.
Alors, une idée de cadeau de Noël, en octobre, le pape François a publié deux exhortations apostoliques. C'est la confiance sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Laudate Deum, qui est plus ou moins une suite de Laudato Si. Est-ce que vous nous conseillez ces livres à offrir ?
Bien sûr. Je vous conseille aussi d'offrir mon livre, certainement, Le Tour des Saints, mais il coûte plus cher que chacune de ces exhortations apostoliques. Bon, l'exhortation apostolique « Louez Dieu, Laudate Deum », qui veut être une précision de l'encyclique Laudato Si, qui a déjà 8 ans d'existence, a un certain intérêt, mais elle est directement liée à la COP 28, à laquelle le pape voulait participer, mais il a été retenu pour des questions de santé. Et je dirais qu'il rappelle l'urgence de décisions internationales par rapport au dérèglement climatique.
Est-ce que vous direz que c'est un texte politique du pape ?
Un peu politique dans le sens où il prend position dans un registre qui n'est pas forcément celui de l'Église, même s'il le resitue toujours dans la grande visée de Laudato Si, qui est celui de l'écologie intégrale. Et d'ailleurs, la dernière phrase qui donne tout son sens à l'ensemble du document, je le cite, le numéro 73, « Louer Dieu est le nom de cette lettre, parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. » Donc je pense que ça donne bien l'orientation de ce sujet. De ce texte. L'exhortation apostolique, c'est la confiance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été écrite par le pape pour le 150e anniversaire de sa naissance, ainsi que pour le 100e anniversaire de sa béatification, en 1923, par le pape Pie XI, est aussi très belle dans le sens de ce que nous disions tout à l'heure. J'y retrouve en effet la veine de son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté, et qui convient bien aussi dans le contexte de mon livre Le Temps des Saints, où il donne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus comme exemple et modèle, en particulier pour la confiance. Dans un monde où nous sommes dans l'inquiétude, où nous sommes dans une culture très anxiogène, je pense que le message de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tel qu'il nous est rapporté par le pape François, est déterminant. Hein, il nous établit dans la confiance. Hein, et c'est extrêmement important pour nous.
Radio Lapourdi.
Monseigneur Ayet, nous continuons avec vous cette émission. Nous allons parler de l'événement de cette année qui a commencé le 26 novembre dernier à Bayonne. C'est l'année de la foi et de l'appel que vous avez lancé officiellement. De nombreux prêtres étaient d'ailleurs présents à cette messe de lancement. Vous souhaitez vraiment que ce soit une année à laquelle tout le diocèse participe d'une manière ou d'une autre ?
Oui, je pense qu'on l'a déjà pas mal annoncé depuis le début de l'année, non seulement aux prêtres, mais à l'ensemble du peuple de Dieu, par les moyens de communication de notre diocèse. Cette messe était une messe de lancement au jour du Christ-Roi, aussi parce que c'était la journée diocésaine des jeunes, donc les JMJ en diocèse cette année, après nos JMJ à Lisbonne, de manière plus universelle. Et je crois que, comme nous l'avons tous un peu senti, et je vois bien que pour pourront l'avoir échangé aussi avec les doyens lors du conseil épiscopal élargi aux doyens en octobre, je crois que c'est une préoccupation que peu à peu les pasteurs de notre diocèse s'approprient. Revenons aux fondamentaux de la foi. Vous savez comment je suis toujours parti de cette parole de Mgr Terrier, qui était évêque de Bayonne entre 1944 et 1957, qui disait, de manière un peu lapidaire mais très significative, « Les vocations sont le bouillonnement de la foi ». Et c'est vrai que nous nous heurtons toujours à cette pénurie des vocations. C'est un phénomène qui est général dans nos pays de vieille chrétienté, mais dans notre diocèse, comme dans la plupart des diocèses de France. Vous imaginez qu'il y a quelques jours a eu lieu un rassemblement de tous les séminaristes de France, ce qui est magnifique, et je crois que ça a été extrêmement porteur pour chacun d'entre eux. J'ai eu le témoignage des séminaristes de notre diocèse. Ils étaient 600.
600 donc à Paris.
600 à Paris, dont une centaine de la communauté Saint-Martin. C'est un sixième. C'est quand même impressionnant. Quand vous savez que moi, j'étais le week-end du 2 décembre à Valencia, en Espagne, en 1950, il y avait 1000 séminaristes dans le diocèse de Valence, en Espagne. Donc 600 pour la France. Donc c'est quand même dramatique, hein, même si c'est magnifique, de voir ces jeunes et l'enthousiasme qui est le leur. Et comme cela leur a été rappelé dans un magnifique message adressé par le pape à ces séminaristes de France à travers le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, où il leur dit ben, « Merci pour votre courage dans les temps qui sont les nôtres, où l'image du prêtre est quand même très écornée, où nous traversons une période de grandes difficultés et d'inquiétudes. Ben, nous rendons grâce au Seigneur. C'est un signe de joie et d'espérance pour l'Église de France, qui y a encore 600 jeunes hommes qui se préparent à être prêtres dans les séminaires de notre diocèse. » Voilà. Donc je crois que ce que j'ai voulu dire, c'est que la crise des vocations, elle s'enracine d'abord dans une crise de la foi, dans une certaine éclipse de la foi authentique, dans ce que saint Jean-Paul II appelait une apostasie silencieuse, ce qui fait de cette crise de la foi quelque chose d'absolument inédit et sans précédent, dans la mesure où on pouvait apostasier, où on peut apostasier en temps ou en période de persécution, parce qu'on est menacé dans sa vie, dans sa liberté, dans ses biens fondamentaux, en raison de sa foi. Là, on vit comme si Dieu n'existait pas et on apostasie sa foi alors même que l'on n'est pas menacé dans sa vie et dans ses biens fondamentaux. Donc je pense que c'est un appel à vraiment centrer à nouveau nos communautés chrétiennes, à nouveau, de manière plus insistante en tout cas, sur la foi, hein, comme connaissance, comme intimité avec le Christ, comme témoignage aussi à rendre au monde d'aujourd'hui.
Et la foi et l'appel, c'est une année de la foi et
la
de
foi
l'appel.
La foi et l'appel, hein, il y a toute une pédagogie et toute une progression dans cette année de la foi qui commence pendant le temps de l'Avent et le temps de Noël jusqu'au dimanche de la parole, le 21 janvier qui sera le troisième dimanche du temps ordinaire, où l'on enracine la foi dans l'écoute de la parole de Dieu. Lue en Église, hein, tel que l'Église nous a transmis la foi, la révélation, fidèlement depuis 2000 ans, tel que c'est consigné dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Donc c'est ça. La première étape, c'est vraiment de s'enraciner dans la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu habite vraiment notre vie, hein, quand saint Paul dit que la parole de Dieu habite en plénitude dans votre vie chrétienne. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui façonne notre mode de vie et notre mode de pensée? Ou est-ce que nous n'avons pas importé dans notre vie chrétienne, y compris dans nos communautés chrétiennes, des pensées, des idéologies, des modes de vie qui sont ceux du monde, hein, et parfois en opposition, en contradiction avec l'Évangile. Donc comment la parole de Dieu habite? Le Concile Vatican II a voulu donner une place très particulière à la parole de Dieu dans la vie des chrétiens en ouvrant à nouveau l'accès à la Bible, qui était quasiment interdite, hein, avant le Concile, au commun des mortels, qui a augmenté l'accès à la Bible, à l'Écriture sainte à travers la liturgie. Hein, mais ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas d'écouter la parole de Dieu seulement à la messe, pour ceux qui y vont, mais il s'agit de faire de la Bible, qui n'est pas d'abord un livre, mais une parole, et une parole de vie, eh bien, le lieu central de notre vie. Hein, parce que la Bible a une place importante dans nos maisons. Parce que quand nous revenons du travail, la bonne chose que nous aurons, c'est Radio Lapourdi ou TF1. Ou est-ce que c'est d'abord de lire une parole de Dieu qui peut façonner et éclairer notre existence?
On peut entendre la parole de Dieu sur Radio Lapourdi, je vous rassure.
Si, on parle beaucoup de la parole de Dieu sur Radio Lapourdi et sur Radio Présence.
Alors vous espérez que ça devienne une habitude, parce que finalement, ce n'est pas en quelques mois, malheureusement, qu'on va raviver la foi et créer des vocations. Donc l'idée, c'est que les gens commencent à s'habituer à lire la Bible et qu'ils continuent ensuite.
Il y en a beaucoup qui le lisent déjà, bien entendu. Mais pour que le grand nombre de nos chrétiens recentrent la foi sur l'écoute de la parole de Dieu, parce que la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole du Christ, comme dit saint Paul dans son épître aux Romains. Cette première étape doit conduire à une deuxième étape, qui est la foi comme intimité avec le Christ. Chacun entre dans une relation d'amitié avec le Christ qui est vivant, qui est déjà commencé dans l'écoute de la parole de Dieu, mais qui s'accomplit dans ce qu'on appelle l'oraison, dans la grande tradition de la mystique chrétienne, telle qu'elle était remise en honneur par les réformateurs du Carmel, sainte Thérèse d'Avila en particulier.
Ce sera pendant le carême.
Pendant le carême, donc. Et qui est lié forcément aussi à cette question du combat spirituel dont le pape François a parlé avec insistance dans le chapitre 5 de son exhortation apostolique, Gaudete et Exultate, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Le combat spirituel, qui est aussi une manière de centrer aussi ce combat sur une arme en particulier, qui est le sacrement de pénitence et de réconciliation, dont nous voudrions qu'il retrouve une place de choix dans la vie des chrétiens. Et puis la troisième étape, et c'est là où on voit bien que c'est une de la foi et de l'appel, qui insiste sur la foi, ce sera le temps pascal, jusqu'à la Pentecôte, la foi comme témoignage, comme mission. Et chacun a une participation particulière à la mission, à un appel particulier, et en particulier, évidemment, nous insisterons sur les vocations plus spécifiques au sacerdoce et à la vie consacrée, qui sont des moyens très particuliers d'être envoyés pour transmettre la foi.
Et puis il y aura une grande marche pèlerinage prévue donc pour clore cette année.
Voilà, donc une grande marche pèlerinage à travers le diocèse, où nous porterons une statue de Notre-Dame de France, semble-t-il que c'est que nous avons reçu en cadeau pour cette initiative, et qui partira de Bétarame, qui traversera le diocèse en s'arrêtant dans des paroisses, des sanctuaires, pour arriver finalement à la cathédrale de Bayonne le 18 mai, je pense, qui sera la clôture de cette année de la foi, veille de Pentecôte, journée diocèse en fête.
Dans une des nombreuses interviews que vous avez données à l'occasion de la publication de votre livre, Le Temps des Saints, vous avez souligné que lors des assemblées plénières, c'était lors de la dernière assemblée plénière à Lourdes, c'était la première fois que vous aviez eu autant de temps pour échanger sur l'évangélisation et la mission.
C'est
un peu étonnant quand même de vous entendre, d'apprendre ça.
C'est étonnant et pas à la fois, parce qu'on a été préoccupé ces dernières années par beaucoup de questions, en particulier, comme vous le savez, et ça reste à l'ordre du jour évidemment de nos préoccupations, eu égard surtout à la souffrance des victimes, mais la question des abus qui nous a occupé beaucoup ces dernières années. Et c'est vrai que c'est la première fois, me semble-t-il, et on s'en est tous accordés, que nous avons consacré autant de temps et de manière aussi systématique à la mission d'annoncer l'Évangile, qui est le cœur de cible de notre mission ecclésiale et notre mission d'évêque, et autant de temps à revenir même à la source de cette mission, non seulement dans le mandat missionnaire du Christ, bien sûr, mais dans ce nouvel élan missionnaire que l'Église a puisé, en particulier dans ce grand événement qu'est le Concile Vatican II. Et un texte fondateur de cette nouvelle évangélisation, comme dira saint Jean-Paul II par la suite, qui est l'exhortation apostolique post-synodale sur l'évangélisation du monde moderne de saint Paul VI. Voilà. Et donc j'étais très agréablement impressionné, comme beaucoup d'autres évêques, par ce retour à ces textes fondateurs, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est vrai, ces dernières années.
Nous vous retrouvons dans quelques instants pour parler de la vie du diocèse.
Pour que vive Radio Lapourdi Iratia, je fais un don.
Envoyez votre chèque avant le 31 décembre à l'ordre de Radio Lapourdie par courrier au 9 rue des Prébendés à Bayonne. Par avance, merci à toutes et à tous. Monseigneur Ayet, nous avons parlé de l'année de la foi et de l'appel, et justement un pèlerinage a été proposé aux prêtres du diocèse pour les vocations. C'était mardi 5 décembre. Alors vous n'avez pas eu de chance avec le temps, je crois, mais c'était une belle journée quand même.
Oui, finalement on est passé même entre les gouttes. D'abord, je remercie beaucoup le service des vocations qui a été renouvelé dans le cadre de la pastorale des jeunes, et en particulier l'abbé Fabien Damet, qui est le responsable de ce service des vocations, pour l'organisation de ce pèlerinage des vocations. Ils l'ont fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de détermination. Donc, il a commencé par une messe célébrée à Saint-Joseph de Biarritz, accueillie par les prêtres de la communauté Saint-Martin, où j'ai pu parler aux prêtres qui avaient quand même, qui ont participé, sans doute les plus jeunes en général, une quarantaine quand même de prêtres de notre diocèse qui ont pris ce temps et qui n'avaient pas d'autres obligations pastorales comme beaucoup d'autres prêtres sans doute aussi, ce jour-là, et où j'ai insisté en commentant le beau message du pape François aux séminaristes de France, rassemblés le 2 et 3 décembre à Paris, signé par le cardinal Parolin, qui redit non seulement le merci du pape aux séminaristes d'entreprendre de manière si courageuse de répondre à un appel à tout donner pour le service de l'Église comme prêtre, où il redit combien le sacerdoce, l'identité du prêtre ne peut pas changer, que le célibat du prêtre est vraiment au cœur de cette identité, tout simplement, dit-il, parce que le Christ a vécu dans cet état. Le prêtre est célibataire, il veut l'être, dit le pape. Qui comprenne peut comprendre, en reprenant les paroles de Jésus sur le célibat pour le royaume des cieux, et où il redit l'identité du prêtre, l'importance du prêtre, en disant cette identité ne peut pas changer, même si elle doit, dans son mode d'exercice, évoluer par rapport aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Et il dit, parmi les évolutions sociétales, il y a le fait que le prêtre n'est plus reconnu n'est plus reconnu d'une certaine manière dans sa stature de prêtre dans la société d'aujourd'hui, et qu'il faut accomplir une pastorale de proximité, d'humilité, d'ouverture aux uns et aux autres, et que cette voie exigeante du sacerdoce nécessite une seule condition, c'est d'approfondir la relation personnelle avec le Christ, voilà, dont on est appelé à être les envoyés. Et donc cette journée ensuite s'est poursuivie par une marche depuis le Rocher de la Vierge, où nous avons pris pas mal d'eau, mais ensuite on a marché entre les gouttes, et on est arrivé tranquillement au refuge, en méditant le chapelet préparé par l'abbé Damet, à partir de paroles de Saint-Michel Garicolz, car nous célébrons cette année le 200e anniversaire de son ordination sacerdotale. Et enfin, un repas convivial qui a duré un peu longtemps, un peu trop longtemps à cause de quelques difficultés de la cuisine, et qui nous a fait un peu écourter le temps de scrutation de la parole, que nous avons quand même fait par petits groupes, et le temps d'adoration, et nous avons terminé par les vêpres, et la bénédiction du Saint-Sacrement.
Ce soir, vendredi 8 décembre, jour où nous enregistrons cette émission, vous allez accomplir une action assez extraordinaire. Un nouveau sanctuaire va être érigé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, l'église Notre-Dame du Bout du Pont, qui se trouve dans un quartier de Pau qui s'appelle le quartier du 14 juillet, non loin de ce fameux pont qui enjambe le Gave pour rejoindre le centre-ville de Pau, mais qui fait partie de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance Jurançon, a une histoire tout à fait particulière, très singulière. Cette église, d'abord, est une église qui est l'église des Ursulines, qui se trouve dans la ville de Pau. Et il se trouve qu'il y a 90 ans, et un peu plus, la ville de Pau désire détruire ce couvent des Ursulines et cette chapelle, obligeant les Ursulines à se déplacer, pour pouvoir donner à Pau une place qui soit convenable. Le curé de Jurançon, l'abbé Ourcade, a l'idée de reconstruire pierre par pierre cet édifice déconstruit dans le centre-ville de Pau, et de le reconstruire près de ce fameux pont, d'où, vous verrez pourquoi, le nom de Église Notre-Dame du Blue Pont. Pourquoi ? Pour y accueillir comme en son écrin une statue vénérée depuis le Moyen-Âge, qui était située précisément au bout du pont, et devant lesquelles, peu à peu, surtout à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, les femmes enceintes venaient confier leur accouchement et leur grossesse à Notre-Dame. On dit même que Jeanne d'Albret, avant de se convertir au protestantisme calviniste, a confié Henri IV, la naissance d'Henri IV, qu'elle portait en son sein, à Notre-Dame du bout du pont. Donc c'est très beau finalement parce qu'on a la conjugaison d'un souci qui est celui des Ursulines, dont le charisme est l'éducation des filles pour en faire de bonnes mères chrétiennes, comme on disait au temps de Saint-Angèle Mérici, la conjugaison de la femme enceinte qui prie pour l'enfant qu'elle porte, hein, et pour que l'accouchement se fasse dans les meilleures conditions. Et donc, c'est vrai que j'entends encore Monsieur Duplex, qui est un enfant de ce quartier du 14 juillet et qui est très amant de cette chapelle, me dire, il y a déjà quelques années, comme cette chapelle devrait être un sanctuaire. Et le curé d'aujourd'hui a eu l'idée, en effet, en conjuguant ce souci de la mère et de l'enfant à naître, eh bien, de me demander si on ne pouvait pas ériger cette chapelle en sanctuaire Notre-Dame du bout du pont, refuge de la mère et de l'enfant, ce que je ferai après avoir consulté le collège des consulteurs, après l'avoir échangé évidemment avec le conseil épiscopal, et avoir vu aussi tout ce que le curé de Jurançon a organisé depuis le 29 septembre, j'ai même ouvert le feu, pour ma part, à travers une conférence sur la dignité de la femme, jusqu'au 15 décembre, ce sera Monsieur Duplex qui clôturera ce temps de conférence, de célébration, de veillée de prière, autour de la mère et de l'enfant. Et je me suis dit que, dans un contexte où le magistère rappelle avec insistance la dignité inviolable de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, de la famille comme sanctuaire de l'amour et de la vie, de la femme ou de la mère comme première éducatrice de la vie et de la foi, je me suis dit que c'était assez opportun, surtout en une période où beaucoup de femmes élèvent seules leur enfant, beaucoup de femmes ne peuvent pas, hélas, garder leur enfant pour des raisons économiques et sociales, eh bien, je me dis que c'est pas mal d'ériger ce sanctuaire de Notre-Dame du bout du pont comme refuge, Marie comme refuge de la mère et de l'enfant.
Quelle est la différence entre une église et un sanctuaire ? Parce que peut-être les gens se posent la question. Et puis, quels sont les sanctuaires existants dans notre diocèse aujourd'hui ?
Alors, il y a beaucoup de sanctuaires, en effet, qui sont dédiés à la Sainte Vierge, en particulier, hein, Notre-Dame du Refuge, Notre-Dame d'Abbette, Notre-Dame de Bétaram, Notre-Dame de Sarance,
Notre-Dame de Piétat,
Notre-Dame de Piétat, hein, du côté de Naï, Notre-Dame d'Arantzazu, hein, au-dessus de
d'Ainhoa. C'est un sanctuaire aussi ?
Ah ben c'est un sanctuaire aussi, c'est une chapelle. Ah oui, alors c'est peut-être pas forcément un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est un lieu qui est appelé de manière habituelle à attirer des fidèles. Voilà. Alors je pense qu'il y a des lieux qui attirent davantage les fidèles de manière habituelle et qui est donc desservi par un clergé qui est au service de l'animation pastorale et spirituelle de ce lieu. Voilà, donc il se trouve que là, ça paraît logique, puisque cette église appartient à la paroisse de Notre-Dame de l'Espérance Jurançon, et bien qu'elle soit animée et confiée en tout cas à la charge du curé de cette paroisse.
Un sanctuaire, est-ce que c'est la première étape avant d'être basilique ?
Ah, c'est autre chose. La basilique, c'est pas forcément un sanctuaire. Même si, d'une manière large, c'est un sanctuaire, puisque c'est un lieu saint. Mais une basilique nécessite d'abord une reconnaissance par le pape, donc elle relie ce lieu au pape lui-même. Hein. Une basilique, c'est un lieu où il y a une dévotion très particulière, liée à un miracle, une apparition, un événement ecclésial lié à une vénération de la Vierge Marie ou d'un autre saint, qui est quand même très significatif dans l'histoire, et qui est desservie par des prêtres qui peuvent assurer dans ce lieu l'office divin, donc la prière de l'Église d'une manière quotidienne, où on enseigne fidèlement au magistère de l'Église et où on se relie donc au magistère du pape. Donc c'est autre chose, une basilique.
On reste dans le diocèse. Est-ce qu'on peut faire un petit point, Monseigneur, sur les chantiers en cours, que ce soit à Pau ou à Bayonne? C'est vrai que les gens sont en demande d'informations. Les travaux vont bientôt commencer à Pau. Bayonne, c'est un peu plus retardé.
Pour ce qui est de Pau, le permis de construire a été accepté, hein, comme on le sait, par la mairie. Les travaux devraient commencer au début de l'année 2024. Donc
très bientôt.
Donc on est vraiment très proche de la réalisation de ce projet. Pour ce qui est de Bayonne, on est encore en discussion avec la mairie. Le permis de construire, un nouveau permis de construire, donc, a été déposé. Pour l'instant, les indicateurs sont plutôt au vert, mais ça demande encore des temps de négociation, en particulier pour la mise à disposition du public de la partie boisée du parc Saint-Léon, où va être construite la nouvelle maison diocésaine. Donc il y a encore quelques négociations avec la mairie, et encore un chiffrage, un affinement des volumes, et de la disposition des volumes à travers cet édifice. Donc les choses sont un peu retardées à cause de ça, puisque comme vous le savez, le premier permis de construire a été refusé par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, qui donnerait plutôt là maintenant un avis favorable.
Voilà, mais donc à Pau, on peut dire que la nouvelle maison diocésaine pourra être...
Saint-François-Xavier,
elle sera effective...
En 2025. Sachant que ce qui est déjà effectif, c'est la maison Saint-Joseph que j'ai inaugurée au mois d'octobre.
Voilà, pour les prêtres âgés.
Voilà, pour les prêtres âgés qui sont retirés mais toujours actifs dans des services pastoraux et qui se trouvent donc à l'ancien grand presbytère de l'église Saint-Joseph de Pau. Donc là, on a mis à la disposition des prêtres un ensemble de 6 appartements avec une chapelle, des lieux communs qui sont tout à fait... performant.
Et rue Montpensier, les chanoines de la Grâce sont installés, ça y est?
Alors, les chanoines de la Grâce, un petit prieuré, donc, a commencé à s'établir au troisième étage, hein, mais ils vont devoir quitter ce lieu pour le temps
pendant
des
travaux.
Et donc, ils seront à quelques encablures de Montpensier, dans un lieu qui nous a été légué et qui, en attendant, de manière très temporaire, les abritera.
Le dernier mois de l'année, c'est toujours le moment de faire les comptes pour tout le monde. Alors, au niveau du denier de l'Église, où en sommes-nous? Et peut-être c'est le moment de relancer l'appel.
Alors, je crois qu'aux dernières nouvelles, mes nouvelles remontent au début du mois de novembre, nous sommes en retard par rapport à l'année dernière, sachant que c'est toujours effectivement dans les derniers mois de l'année et au tout début de l'année suivante que les dons arrivent. Je crois que c'est important de rappeler à l'ensemble des fidèles du diocèse l'importance du denier de l'Église pour pouvoir subvenir au traitement des prêtres, des séminaristes et des laïcs employés dans notre association diocésaine, que ce soit au siège de l'évêché et de ses services, que ce soit dans les paroisses. Donc je crois que c'est important de rappeler aux fidèles que c'est un don essentiel pour que l'Église puisse poursuivre sa mission dans notre diocèse.
Dans quelques jours, vous allez délivrer votre message de Noël, un Noël qu'on va vivre quand même avec les images qu'on voit tous les jours depuis, bon, bien sûr, la guerre en Ukraine, mais aussi la guerre depuis la Terre Sainte. Vous avez des nouvelles de la communauté chrétienne là-bas, puisque vous avez...
J'ai demandé des nouvelles à la communauté de Matara, qui est installée à Sauveterre actuellement, puisque leurs sœurs sont là-bas avec les filles les missionnaires de la charité de Mère Thérésa de Calcutta. Donc ils sont dans une condition extrêmement précaire. Pour l'instant, ils sont réfugiés. On a lieu, tous les chrétiens ensemble, dans une situation extrêmement précaire. Donc il faut continuer, évidemment, à les soutenir de notre prière. En tout cas, je peux vous dire que le pape les appelle régulièrement, appelle le curé de cette paroisse quasiment tous les jours. Hein, donc c'est quand même beau de savoir qu'il y a un soutien concret de l'Église et que nous pouvons poursuivre, nous, par notre prière. C'est vrai que le message de Noël sera sur fond de guerre, c'est vrai, en Ukraine, en Terre Sainte. Il ne faut pas oublier l'Arménie aussi, hein, on a l'impression d'un nouveau génocide des Arméniens, et puis aussi sur fond de violence qui se perpétue de plus en plus sur notre sol.
Merci à vous, Mgr Ayé. Merci à vous, à Violaine Ricourt-Dumas. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette émission soit sur le site internet de Radio Présence, soit sur le site internet de Radio Lapourdi. Très bon Noël à toutes et à tous.